Père éternel, on te rend grâce pour ta parole qui est vivante. On te dit merci Seigneur pour ce que tu as déposé dans le cœur de Farid ce matin et pour laquelle Seigneur nous allons être au bénéfice. Alors, je prie que tu puisses utiliser Farid comme un canal. Seigneur, viens le bénir et viens l'utiliser comme tu sais si bien faire Père. Et que ta parole puisse ne pas revenir sans effet Seigneur dans nos cœurs. Amen.
Merci Damien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on arrive au dernier chapitre de notre série, Livre de l'Exode. C'est le moment de faire « Oh !» Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'il nous reste encore 65 livres. Ouais ! On arrive à la conclusion. Donc, le défi ce matin, ça va être de résumer ce qu'on a fait. On y est depuis quand ? Depuis 4 mois, 5 mois maintenant dedans. Donc j'espère, si ceux qui n'ont pas pu écouter l'ensemble des messages, n'hésitez pas à aller sur le site et à aller récupérer les messages que vous n'avez pas écoutés. C'est important voilà, de vivre ces expériences au travers de différentes prédications ensemble. D'accord ? Donc allez, je vous encourage encore à aller écouter les messages auxquels vous n'avez pas pu bénéficier. Ceux qui nous visitent ce matin, qui n'ont pas suivi du tout cette série, c'est pas grave, il y aura un petit résumé ce matin. On va pas tout aborder, mais vous pouvez aussi aller sur le site si vous êtes intéressé. Il y a plein de messages qui déroulent petit à petit ce livre. On va commencer par lire une grosse partie du dernier chapitre. Je vous laisse changer les diapos. Ceux qui veulent suivre dans leur Bible, vous pouvez. Sinon, c'est affiché là-haut. Donc on arrive au moment où Dieu avait parlé du tabernacle. Le tabernacle a été construit. Et puis le dernier chapitre rappelle ces choses-là. L'Éternel parla à Moïse et dit « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. » Tu placeras l'autel des holocaustes, c'est-à-dire l'autel des sacrifices, devant l'entrée du tabernacle, devant la tente. Donc tabernacle, tente d'assignation, et c'est la même chose. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis alentour, tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction et tu oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme. Tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles et tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi le premier jour du premier mois de la seconde année. Le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné. Donc, vous voyez, on rappelle tous les éléments de la construction de l'arche. On peut passer. Ensuite, la suite du passage nous montre simplement que Moïse obéit. Et il obéit d'une manière, j'allais dire, rigoureuse, à la virgule près. C'est pour ça qu'on a cet effet de répétition. Ça nous montre que Dieu a parlé et Moïse a obéi et a mis en place vraiment tout ce que Dieu demandait. On saute du coup au dernier verset, au partir du verset 34. « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. » Ce mot « remplir » est important. Aussi, longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Beaucoup de choses se sont passées dans ce voyage de l'Exode. Et au fur et à mesure qu'on avance dans ce livre, on voit le plan du salut de Dieu se dévoiler progressivement, ce plan de salut pour toute l'humanité. Nous allons reprendre ce matin certains aspects de ce plan divin en 7 points. Je sais que vous avez de la patience et l'envie de m'écouter. Mais avant, on va reprendre des éléments du texte de ce dernier chapitre et notamment trois choses qu'il nous est rappelé encore par rapport au tabernacle. Le tabernacle, c'est cette tente, c'est le symbole de la présence de Dieu, la présence permanente de Dieu auprès de son peuple. Il est en place et Dieu a pour projet d'habiter parmi son peuple. Et c'est une révolution à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui. Le Dieu qui est adoré, oui, il est au-dessus, il est quelque part tellement grand qu'il est loin, mais il est proche et il vient habiter au milieu de son peuple. Mais, il y a un mais dans ce dernier chapitre dont on a déjà parlé, l'accès à sa présence, elle est conditionnée, limitée, voire interdite. Et on va commencer par voir assez rapidement ces trois aspects ce matin. Le premier, l'accès à la présence de Dieu, comme on a eu ce matin, on a été invité à entrer dans cette présence, eh bien, ça n'a pas été toujours le cas. L'accès a été conditionné. Au verset 6 et 7, il est dit « Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente et l'autel et tu y mettras de l'eau. » Et au verset 29, il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle et il y offrit l'holocauste et l'offrande comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'accès à Dieu était conditionné à deux choses. Il se faisait grâce au sang versé. Voilà pourquoi la présence de cet autel des holocaustes, au travers de sacrifices d'animaux, au travers d'une autorisation temporaire de la part de Dieu qui acceptait à ce moment-là le sang d'un animal en substitution, vous connaissez ce mot, en remplacement pour le péché des hommes. L'autel était une étape incontournable pour accéder au lieu de la présence de Dieu. Et la deuxième chose qu'il fallait faire, c'était les ablutions. Qu'est-ce que c'est ce mot ? C'est tout simplement le lavement du corps. D'accord ? Aaron et ses fils, ses descendants, devront passer par le rituel des ablutions, symbole de la purification pour accéder à la sainteté de Dieu. Il y avait des conditions. On ne pouvait pas venir se présenter devant Dieu n'importe comment. Le deuxième point, c'est un accès limité. Versets 30 à 32, il plaça la cuve entre la tente et l'autel, il y mit l'eau pour les ablutions, et on voit qui ? Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds lorsqu'ils entrèrent dans la tente, et ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Seules quelques personnes pouvaient entrer dans la tente. Ce matin, nous sommes tous rentrés dans cette présence de Dieu. À l'époque, ça n'était pas le cas. Le service autour du tabernacle et plus tard dans l'histoire, autour du temple, donc tout ce qui concernait la musique, les transports, le culte, etc., était confié à un groupe de personnes qu'on appelle les Lévites. Et à l'intérieur des Lévites, seuls les membres de la famille d'Aaron qui faisaient des sacrifices pouvaient entrer dans le lieu saint, le sanctuaire, pour accomplir le service quotidien. Et parmi ces quelques personnes qui pouvaient entrer dans le lieu saint, seulement une personne, le grand prêtre, pouvait accéder au lieu très saint, mais seulement une fois par an, et en suivant une série de rites très précis. Il fallait ôter ses vêtements, se laver, revêtir de nouveaux vêtements, offrir un sacrifice pour soi-même, entrer avec de l'encens, entrer avec du sang, expier pour le peuple. On tuait à ce moment-là un premier bouc. Et puis enfin, il y avait le rite du second bouc, qu'on appelait le bouc émissaire, où le prêtre posait les mains sur la tête du bouc pour transmettre les péchés du peuple. Donc toujours cette image de la substitution, l'animal qui prend les péchés à notre place. Et puis l'animal était chassé et envoyé dans le désert comme pour emporter le péché du peuple au loin. Si vous êtes intéressé par tout ça, vous pouvez aller lire par exemple dans Lévitique au chapitre 16. L'accès était limité. Et la dernière chose dont nous parle le texte, c'est l'accès interdit. C'est bien de se rappeler ça pour qu'on comprenne la grâce que l'on a aujourd'hui. C'est une vraie grâce de pouvoir venir devant Dieu et de pouvoir le louer. Verset 21, il apporta l'arche dans le tabernacle et qu'est-ce que fit Moïse ? Il mit le voile de séparation et il couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné. Et au verset 35, quand la présence de Dieu remplit et pleine, il nous est dit, même Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Waouh ! Alors que le tabernacle est en place, que la gloire de Dieu descend sur la tente, tout semble préparé pour que le peuple rencontre Dieu et baigne dans sa présence. Mais le texte semble dire que non, pas complètement. Ce n'est toujours pas possible. Même Moïse, face à la nuée, ne pouvait pas entrer. L'accès libre n'était pas encore ouvert. Si vous vous souvenez, Pierre en avait parlé dans un de ses messages. Le voile de séparation entre Dieu et les hommes demeure encore. Il faudra attendre 1440 ans, à peu près, pour la naissance de Jésus. Pour voir, quelques années de plus, presque 15 siècles après cet épisode-là, c'est-à-dire la mort de Jésus-Christ à la croix, pour voir enfin ce voile déchiré par Dieu lui-même et voir apparaître un libre accès à Dieu et à sa présence. On peut lire ça dans Hébreux 10, verset 19. « Ainsi donc, frères et sœurs, bien sûr, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Quand on va lire ça maintenant, lisons-le avec tout le poids de l'histoire du peuple d'Israël. Une libre entrée dans le sanctuaire pour, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, le grand prêtre, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous voyez tous les parallèles avec tout le livre de l'Exode. On pourrait dire en conclusion, en quelque sorte, que la conclusion du livre de l'Exode, c'est « Dieu vient habiter parmi les hommes ». On peut le résumer en un mot, ce serait quoi ? Ce n'est pas une devinette. J'ai pensé de suite à Emmanuel. Résumé, je vous propose un résumé du livre de l'Exode. Emmanuel. Parce que ça veut dire Dieu avec nous. Le livre entier de l'Exode, tout en rapportant le récit du peuple hébreu, montre une direction, celle de Jésus-Christ. C'est lui qui délivre de l'esclavage le plus dur et le plus terrible, le péché qui est dans nos vies et qui mène à la mort. C'est lui le pain venu du ciel, cette manne éternelle. C'est lui le rocher qui donne l'eau, qui désaltère et qui jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est lui qui va incarner le tabernacle. C'est Jésus qui va ouvrir l'accès à la présence de Dieu permanente. C'est Jésus qui va faire de nous des grands prêtres accédant, pas seulement au lieu saint, mais au lieu très saint. C'est Jésus qui va faire de l'Église le temple du Saint-Esprit, où Dieu vient demeurer avec toute sa plénitude. Éphésiens 3, 19, Paul dit « En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Waouh. Waouh. Seigneur, tu es présent dans l'Exode. Reprenons maintenant quelques grands axes où on va parcourir rapidement. Mais voilà ce que j'avais à cœur de repartager. En théologie, on appelle ça le plan du salut, ça s'appelle la sotériologie. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les gros mots. Et on va aborder ces points un à un. Bon, il n'y en a que 7, ça va ? Le premier point, Dieu est souverain. Dieu agit librement pour sauver son peuple de l'esclavage en Égypte. Il ne demande ni l'avis de Pharaon, ni la vie de personne. Par extension à cela, Dieu nous libère librement de l'esclavage du péché qui conduit à la mort. Dieu est maître de l'histoire. Ni Pharaon, ni aucune armée ne peut s'opposer à lui. Avec Dieu, même le plus faible, l'esclave, devient le plus fort. Amen. Dieu règne et fait tout ce qu'il veut. Le salut est une initiative de Dieu lui-même, non un mérite venant des hommes. Dieu choisit et sauve par grâce seule. C'est ce qu'on appelle chez les protestants le sola gratia. Si ce matin, parmi nous, certains n'ont pas encore fait cette rencontre de ce Dieu, je t'invite à prier dans ton cœur. Seigneur, sauve-moi. Je sais que ça vient de toi et je te demande de te révéler à mon cœur. Dieu est souverain. Deuxième point, la grâce vient avant la loi. La grâce vient avant la loi. Dieu libère de l'esclavage et de l'esclavage du péché. Il sauve d'abord, puis donne la loi. L'ordre dans l'Exode est Dieu délivre, puis Dieu fait alliance, puis Dieu fait le don de la loi. Pourquoi c'est important? Car le salut précède toujours l'obéissance. Nous obéissons parce que nous sommes sauvés. C'est la bonne compréhension de la grâce. Nous n'obéissons pas pour être sauvés ou libérés. Ça, c'est le début du légalisme. Et c'est important de le poser dans nos vies, d'accord ? Que tout ce que l'on vit avec le Seigneur, on le fait en réponse à son amour, en réponse à tout ce qu'il a fait pour nous. On n'agit pas pour obtenir la faveur de Dieu, mais parce que Dieu nous a placés dans son Fils, nous sommes au bénéfice de la faveur de Dieu et alors nous obéissons de tout notre cœur. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas obéir. Et on va le voir après. Troisième point. Dieu fait alliance. Il est un petit peu plus long celui-là. Dans l'Exode, la notion d'alliance est fondamentale. Dieu se souvient de son alliance avec Abraham. Au Sinaï, il établit une relation structuré avec son peuple. Il fait évoluer l'alliance avec Moïse et le don de la loi. Et ce que j'avais envie de faire ce matin, c'était juste de reprendre un peu les alliances dans l'Écriture. Tout au long de la Bible, on voit que Dieu fait alliance et que cette alliance évolue. En Adam, eh bien, c'est l'alliance des œuvres avec des commandements, cultiver le jardin, peupler la terre. Et l'obéissance devait amener la vie. Cette alliance, elle est comme renouvelée avec Noé. Pareil avec des promesses liées aux œuvres et la promesse de ne plus envoyer le déluge. Mais dès Adam, on commence à clairement comprendre que le projet de Dieu pour l'humanité ne peut être accompli dans cette seule alliance. L'homme désobéit, il pêche, il se détourne du plan de Dieu, du plan de vie. C'est le début de quelque chose d'autre qui doit mener à la vie avec Dieu et à la vie selon Dieu. La notion de sacrifice commence déjà à pointer le bout de son nez et la notion de grâce. Vous pouvez aller lire Genèse 3, notamment verset 21. Deuxième alliance, c'est l'alliance avec Abraham. Là, c'est l'alliance avec un peuple en particulier. Dieu, au travers du peuple d'Israël, veut conduire l'humanité tout entière dans son plan de salut. Dieu parle de bénir la postérité, les descendants. Et ça, c'est déjà une annonce, encore certes voilée, mais de la venue du Fils de Dieu. La notion aussi avec Abraham de sacrifice est présente, notamment en Genèse 15. Et puis rappelons-nous, je crois que c'est Joël qui a prié ça, le sacrifice demandé par rapport à Isaac. Mais toutefois, cette alliance n'est toujours pas suffisante à salut. Vient l'Exode avec Moïse. Et Dieu prolonge son alliance, prolonge l'alliance d'Abraham, et avec toujours avec une alliance liée aux œuvres. Les bénédictions, les malédictions conditionnées à l'obéissance du peuple. Dieu annonce de manière plus claire encore la venue du Fils de Dieu. Par exemple, Exode 4, 22, Israël est appelé le Fils de Dieu. La notion de sacrifice nécessaire est affirmée de manière plus précise avec les rituels. La construction du tabernacle affirme la volonté de Dieu de vivre au milieu de son peuple. Mais là encore, cette alliance n'est pas complète pour le salut de l'humanité. Encore une alliance arrive, celle avec David. Et là, on a la promesse claire du Messie et de la vie éternelle à venir qui se précise. La promesse renouvelée sur la postérité bénie et l'annonce claire de la venue du grand roi. La consolidation aussi de la volonté de Dieu de vivre au milieu de son peuple. On passe d'un tabernacle en toile à un temple en pierre. Mais là encore, cette alliance devait se prolonger par quelque chose d'encore plus grand. Et toutes ces successions d'alliances nous mènent progressivement vers la nouvelle alliance, celle que Jésus a accomplie, le Fils de Dieu lui-même venu sur terre. Et c'est ce qu'on appelle l'alliance de grâce. C'est l'alliance parfaite, celle-là. La seule qui réalise pleinement le projet de Dieu pour l'humanité entière et l'histoire du salut. Cette alliance permet le pardon effectif et complet des péchés à perpétuité. D'accord ? Dans l'Exode et la suite, on voit que les sacrifices vont devoir se renouveler année après année. La loi n'est plus seulement écrite sur des tablettes de pierre, mais Dieu vient la graver dans nos cœurs. Dans la nouvelle alliance, le temple n'est plus une toile ou des pierres, mais le lieu de la présence de Dieu devient son peuple, chacun d'entre nous rassemblé et représenté par l'Église. Le salut, la vie éternelle, peut enfin s'obtenir. Le projet de Dieu pour le salut s'accomplit pleinement dans la nouvelle alliance. Et même si nous pouvons voir une forme de continuité dans ces successions d'alliances depuis Adam jusqu'à Jésus. Elles sont toutes données pour mener à la nouvelle alliance, l'alliance éternelle, celle manifestée et accomplie pleinement. Dans Hébreu, je crois, il est dit une fois pour toutes. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Pourquoi c'est important de comprendre cela ? C'est parce que la dernière alliance, elle nous sauve pleinement et entièrement. Il n'y a pas de notion de « est-ce que je vais perdre mon salut ou pas ?» D'accord ? Vu que ce n'est pas toi qui t'es sauvé, mais c'est Dieu qui est venu vers toi et qui t'a placé en Jésus-Christ. Et cette alliance-là est suffisante pour la vie éternelle. Quatrième point, Dieu donne la loi comme guide de vie. Il y en a qui se disent, oh, celui-là, tu aurais pu le sauter, non ? Même si elle ne sauve pas le pécheur, le don de la loi n'est pas accessoire. Notamment, rappelons-nous les 10 commandements, elle est nécessaire. Elle est indispensable pour 3 choses majeures. La loi guide, elle guide la vie du croyant vers la volonté de Dieu. Elle évite que le croyant ne se perde complètement dans les méandres du mal. Et aujourd'hui, on voit combien c'est important. Quand chacun y va de son opinion dans la société, quand chacun dit et prône ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, combien nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous éclairer devant. Et la loi révèle le péché. Pourquoi c'est important de révéler le péché ? Vous êtes déjà posé cette question ? Mais tout simplement parce que ça va produire en toi le désir de te repentir. Si rien ne vient révéler dans ton cœur ce qui n'est pas bon, jamais tu ne changeras, jamais tu ne plieras le genou devant Dieu, jamais tu ne demanderas pardon. Et la loi est là pour nous éclairer, nous montrer vraiment qui nous sommes. C'est impressionnant d'observer combien le décalogue, les 10 commandements, mais aussi plein d'autres lois, les lois sur l'agriculture, l'accueil des étrangers, etc., a influencé pendant des siècles, pendant même des millénaires, les sociétés qui ont été touchées par la pensée judéo-chrétienne. La loi n'est pas première, la grâce est première. Toutefois, l'esprit de la loi est indispensable pour lutter contre le mal et mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Donc, merci Seigneur pour le don de la loi. Cinquième point, Dieu est saint. Saint, saint. Tout au long du voyage de l'Exode, Dieu se présente comme le Dieu saint. Il ne négocie pas avec le péché. Il met à part, si vous vous rappelez les messages, son peuple. Il purifie les mœurs, les pensées, les comportements. Dieu définit même comment il doit être adoré, où et avec qui. Il désire partager sa présence. En gros, le livre de l'Exode ne partage pas vraiment, alors les jeunes ne vont pas connaître, mais cet ancien slogan de McDo, « Venez comme vous êtes ». Même si Dieu nous accueille tel que nous sommes, il nous conduit sur un chemin. Tantôt le désert, tantôt les oasis, tantôt les montagnes, tantôt les plaines. Mais à l'intérieur de ce chemin, nos vies sont transformées, pas après pas. Parce que le désir de Dieu, c'est que nous ressemblions toujours plus au Fils unique de Dieu, à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Point 6. Israël, Dieu met son peuple en marche. Et ça fait aussi partie du salut de Dieu, de nous mettre en marche. Israël est sorti de l'esclavage pour une longue route, les amis. Très longue route. 40 ans de marche. De même, le chrétien est délivré du péché et de la mort pour marcher, poussé par la volonté de Dieu. Jésus lui-même a beaucoup marché. Les premiers disciples ont beaucoup marché, rencontré toutes sortes d'aventures et de défis face auxquels Dieu manifeste sa puissance et sa grandeur. Nous sommes sauvés par la foi, puis nous sommes appelés à continuer à marcher par la foi, guidés par la présence permanente du Saint-Esprit dans nos cœurs. Quoi que nous fassions, Dieu nous appelle à rechercher sa gloire. Nos pensées, nos décisions, nos actions doivent être orientées pour servir à élever et glorifier son nom. Dernier point, c'est Dieu vient, veut habiter avec son peuple. On en a déjà parlé au début. La nuée, la colonne de feu, puis le tabernacle montrent clairement l'intention de Dieu d'habiter au milieu de son peuple. Et ce désir trouvera son plein accomplissement avec la venue de Jésus au milieu de son peuple et regroupant son troupeau autour de lui. Une dernière chose avant de conclure. On pourrait lire le livre de l'Exode avec plein de choses devant les yeux, mais une chose, je pense, est centrale et c'est bien de la rappeler à la fin, même si je l'ai mentionné au début, c'est de voir Jésus, christocentrique, ça veut dire centré sur Jésus. L'Exode est une sorte de préfiguration du salut en Jésus-Christ. On a l'agneau pascal qui permet d'éviter la mort, allusion au sacrifice de Jésus. On a la mise à l'écart du jugement de Dieu, vous vous souvenez, à partir de la quatrième plaie. Jésus a pris sur lui notre condamnation et effacé l'acte rédigé contre nous. La sortie d'Égypte, qui est le symbole de la délivrance du péché. Le passage de la mer, c'est Dieu qui ouvre un chemin face à la mort. La manne, le pain venu du ciel, et Jésus est le vrai pain de vie. L'eau qui coule du rocher, Jésus est le rocher de notre salut qui donne l'eau de la vie et celle qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Moïse est le médiateur entre Dieu et son peuple. Jésus est le seul médiateur qui peut nous sauver. La présence pleine, libre et permanente de Dieu ne s'obtient qu'en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce important de bien comprendre cela pour nos vies ? Ben, tout simplement, il n'y a qu'un seul Sauveur et Seigneur. Je vais peut-être en décevoir certains ce matin. Il n'y a qu'un seul Sauveur et Seigneur. Même si les responsables de l'Église, les frères et sœurs, sont présents pour nous soutenir, nous encourager, nous donner de la consolation, nous donner de l'amour, plein de belles choses qui nous aident à marcher dans notre vie. Seul Dieu délivre du péché. Seul Dieu libère de l'esclavage, d'addiction, de mauvaises habitudes. Seul Dieu guide nos vies et sait ce qui nous attend sur le chemin. Seul Dieu est notre vrai soutien, le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Seul Dieu peut transformer mon cœur. Seul Dieu peut pourvoir à mes besoins. Seul Dieu peut réellement me consoler. Seul Dieu peut m'aimer et me donner cet amour qui me fait sentir en sécurité, satisfait, joyeux, épanoui, enthousiaste, rempli de foi, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir ? Non pas que les frères et sœurs ne sont pas importants, vous savez que c'est le contraire que l'on prêche, mais au travers de frères et sœurs, ce qui est important, c'est ta rencontre personnelle avec Dieu et ta mise en marche dans ta vie de tous les jours sur ce que Dieu te demande, lui directement. Seul cet amour peut me rendre humble, doux, patient dans la vie, espérant comme Abraham contre toute espérance et attendant le jour grand et glorieux de la seconde venue de Jésus, cet époux qui restaurera toute chose. En résumé, l'Exode n'est pas seulement un récit historique, mais un vrai modèle de salut. Et du coup, venons à Dieu, les amis, marchons ensemble et soyons convaincus que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Soyez bénis.